Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes sous le regard du Seigneur et nous comprenons par le seul fait de nous trouver dans sa présence que c'est sérieux. C'est un moment de joie, mais c'est en même temps un moment solennel chaque fois que nous croyons que Dieu veut s'adresser à chacun de nous. Toute la Bible nous enseigne que nous devons nous préparer à le rencontrer. Les païens doivent le savoir, mais les chrétiens doivent le savoir, qu'il faut toujours être prêt à le rencontrer. C'est la chose la plus importante. Il y a des gens qui ont gâché leur mariage, mais franchement, qu'est-ce que c'est à côté de rater son éternité, sans vouloir mépriser la douleur qu'un homme, une femme peuvent connaître dans un moment aussi douloureux. C'est extrêmement grave. Mais qu'est-ce en comparaison de se louper pour l'éternité? Nous voyons par exemple un texte qui est là dans mon cœur, dans l'Ancien Testament, que Dieu va tout faire pour ramener le peuple de Dieu à son amour. Et ils ne veulent pas. Dans le prophète Amos au chapitre 4, il y a une parole que j'avais déjà expliquée en son temps, qui m'a toujours, toujours bouleversé. Il a fallu que je la médite pour comprendre que ça venait bien de Dieu, parce que ça vient de Dieu. Et ce n'est pas du cynisme ou de la moquerie, c'est une parole qui doit nous faire réfléchir. Amos, chapitre 4, verset 4. Ensemble, c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse, quand Jésus dit, mais que celui qui se souille, eh bien qui se souille. Ce sont des paroles pour nous faire réagir. Bien sûr que Dieu ne veut pas que nous souillions ou que nous vivions dans le péché, mais Dieu respecte notre libre arbitre. Et dans ce texte, Amos 4, verset 4, Dieu dit, allez à Bethel. Qu'est-ce que vous auriez mis, voilà, après? Qu'est-ce que vous auriez écrit après? Et voilà. Allez à Bethel et adorez-le. Allez dans ma maison et bénissez mon nom. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal, encore un lieu de culte, et péchez davantage. Dieu ne fait pas d'humour, vous savez. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ils étaient tombés dans l'apparence de la piété. Ils aimaient aller au culte, mais ils vivaient dans le péché. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va faire ce qu'il doit faire. Regardez, et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2-3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à Dieu. Et voyez, mes frères, nous voyons là que Dieu est juste. Il y a des gens en qui Dieu a envoyé la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui obéissent à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, Dieu envoie la pluie. Alléluia. Lorsqu'un homme obéit à Dieu, Dieu envoie sa bénédiction. Et je crois que nous sommes arrivés dans cette époque où Dieu bénira l'homme et la femme qui vraiment obéissent au Seigneur. Sinon, il y aura de la sécheresse. Verset 9, « Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. Et j'ai fait monter à vos narines l'infection de votre champ. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, de l'Éternel. » Verset 12, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Et ce texte, nous l'utilisons presque tout le temps dans des campagnes d'évangélisation pour les pécheurs. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais moi, je vous dis que dans ce texte, ce n'est pas aux pécheurs que Dieu s'adresse, c'est à son peuple. C'est à son peuple, c'est à ses enfants. Dernièrement, j'étais dans une église de passage et il y a une sœur qui avait prié, elle avait prié quelque chose qui était exact, mais qui n'était pas complet. Et dans sa prière, elle disait, « Seigneur, merci, merci parce que tu es un Dieu d'amour, tu n'es qu'un Dieu d'amour, tu n'es qu'un Dieu de tendresse, tu n'es qu'un Dieu de bonté. » Et est-ce que c'est vrai? que Dieu est plein de tendresse. Mais Dieu n'est pas qu'un Dieu de bonté. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu de justice, de sainteté et de jugement. Nous pourrions lire les textes, et vous, mais de toute façon, vous savez que c'est vrai. Et je voudrais ce soir, pendant quelques minutes, vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est certainement pour plusieurs parmi nous, peut-être pour des inconvertis, vous qui n'avez pas encore pris le baptême, vous, ça va vous faire réfléchir peut-être encore mieux, mais surtout pour des chrétiens. Des chrétiens qui ne réalisent pas qu'ils ne sont pas prêts à rencontrer le Seigneur. Vous savez, il y a des textes terribles. Moi, le texte qui m'a fait le plus frissonner lorsque je me suis converti, c'est une parole que Jésus a prononcée 7 fois dans le Nouveau Testament, c'est quand il dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je ne sais pas ce que vous avez pensé la première fois que vous avez lu ce texte. Ça ne vous a pas fait drôle ce texte? C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et ce n'est pas, Jean qui le dit, ou Paul, ou un apôtre, ou un prophète qui soit plus sévère qu'autre chose. Non, c'est Jésus lui-même. Il n'y a que Jésus qui utilise cette parole dans la Bible. Alors la première fois que Jésus l'utilise, c'est dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 8, c'est par rapport à une guérison, il y a une bénédiction, il y a un homme qui s'empare de la guérison de son serviteur, c'est un officier de l'armée romaine. Cet homme va faire une belle expérience par la foi, que Dieu nous accorde cette grâce de vivre par la foi. Matthieu chapitre 8, alors on ne va pas ce soir voir les 7 textes, je l'ai déjà fait en son temps, et je ne voulais pas le refaire. Mais j'ai été repris par le Seigneur. Et le Seigneur m'a montré certains textes dans la Bible, quand Paul dit, ou Pierre, les deux le disent, « Je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses, car cela vous est salutaire. » Ce n'est pas pour faire du bourrage de crâne. Vous le saurez par cœur. Vous serez de bons chrétiens, parce que vous l'aurez appris par cœur. Et ça, je me lasse. Non. On me connaît des versets par cœur. « Cela vous est salutaire. » On ne répète pas les choses pour que les gens les apprennent par cœur. On répète les choses parce que c'est pour le salut. Si c'est salutaire, c'est que c'est pour le salut de la personne. Dans Matthieu au chapitre 8, on lit cette affaire. On la relit. « Comme Jésus était dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Souvent, nous arrêtons la lecture là et nous faisons une exhortation sur la foi. Mais regardez ce que Jésus ajoute. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis, Jésus dit au centenier, « Va !» qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses, dont je vais redire certaines choses qui ont déjà été dites, mais qui doivent être redites parce que plusieurs parmi vous, vous devez être certainement en danger de perdre la foi. C'est écrit que dans la fin des temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc c'est une évidence. Même si le Seigneur ne me le révélait pas, il va de soi que comme Jésus l'a prophétisé, c'est ce qui se passera dans bien des églises, beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils n'abandonneront pas le culte, ils abandonneront la foi. C'est exactement ce que Jésus dit aux croyants du temps du prophète Amos. Mais allez à Bethel, continuez à célébrer le culte. Mais en même temps, qu'est-ce que vous faites? Vous péchez. Et moi j'essaie de vous interpeller, j'essaie de vous rattraper. J'ai envoyé ceci, j'ai envoyé cela. Vous savez mes frères, on le voit, là on est discret à ce sujet. Il y a dernièrement une situation que j'ai vécue. Je l'ai vécue seul. On n'en fait pas étalage parce que c'est normal qu'on n'en fasse pas étalage. D'une personne qui a connu quelque chose de douloureux. De très très douloureux. Et cette personne, bien sûr, a réalisé que dans cette affliction profonde, il n'y avait qu'un moyen, c'était de revenir à Dieu. Et cette personne a dit, mais monsieur Gauche, je vous assure, je suis en train de prendre conscience que j'ai abandonné le Seigneur et Dieu permet cette épreuve terrible dans ma vie pour que je revienne à lui. J'ai compris la leçon. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je revienne à Jésus. Il faut que je me retrouve dans ses bras. Et cette personne a vu la main de Dieu. Dieu a envoyé la maladie d'une manière sévère dans sa famille. Et Dieu a posé sa main. Et la personne a été guérie. Mais 15 jours après, la personne avait abandonné la foi. Et nous voyons dans ce texte, ce que nous voyons également dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu peut permettre certaines choses pour que nous revenions à lui. Nous, on voit le diable dans toutes les sauces, dans toutes les sauces. Ce qui exprime, par premièrement, un manque de discernement. Il y a des gens qui mettent le diable partout. Moi, je crois que le Seigneur est capable de permettre certaines épreuves pour nous ramener à lui. Est-ce que vous aimeriez que Dieu permette certaines épreuves pour vous ramener à lui, ou vous préfériez que tout se passe sans rien et terminer dans les pleurs et les grincements de dents? Et là, Jésus, donc, est en train de manifester sa puissance. Il guérit un homme, c'est même pas un croyant. En tous les cas, c'est pas un croyant selon la norme des pharisiens. Il fallait que les gens soient des pharisiens et qu'ils adoptent à toutes leurs lois, à leurs commandements, à leurs contraintes, etc. Et eux pensaient que parce qu'ils prêchaient bien la loi, c'était les meilleurs. Jésus les a souvent traités d'hypocrites, malgré tout pasteur qu'ils étaient. Et là, le Seigneur est en train de bénir un homme qui n'est pas du peuple d'Israël. C'est un occupant. C'est quelqu'un qui est utilisé par Rome pour les oppresser. Les Juifs détestaient les officiers de l'armée. Pensez donc. Mais Jésus, lui, ne fait pas d'exception de personne. Il bénit celui qui s'approche de lui. Amen. Ce soir, que vous soyez un officier, que vous soyez un religieux, que vous soyez un laïc, que vous soyez qui que vous soyez un pauvre, que vous soyez un riche, Dieu regarde au cœur. Ça, c'est évident. Mais le Seigneur, justement, va utiliser cette histoire pour... Moi, quand j'ai lu cette affaire, quand je me suis converti et que j'ai lu les évangiles, je pensais, moi, mais vous savez, je n'analysais pas. Donc, quand je lisais, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, pour moi, c'est évident, c'était pour les perdus. Vous comprenez? Mais ça ne pouvait pas être autrement. Un chrétien, il ne peut pas aller à l'enfer. Un chrétien, il est sauvé, point barre. Il a pris le baptême, il est sauvé. Mais ce n'est pas du tout ce que dit le Seigneur. Le Seigneur est en train d'expliquer que ce sont, vous l'avez lu au verset 12, les fils du royaume. Les fils du royaume, qui c'était à l'époque? C'était le peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu. Et Jésus dit, les fils du royaume seront jetés. Mais je n'ai pas fait attention. Et en étant pasteur, heureusement que je fais un peu plus attention. Seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est quoi le contexte? Chaque fois, pour comprendre un texte, ça c'est bien pour les jeunes pasteurs, il faut chercher le contexte. Le contexte de cette affaire, c'est la foi. C'est pour cela que si nous ne voulons pas connaître les pleurs et les grincements dedans, nous devons nous interroger au sujet de notre foi. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Alors qu'il fait des promesses, alors qu'il nous demande de persévérer dans la prière, il leur adresse une parabole. Vous connaissez Luc 18? Allons-y ensemble. C'est une parole extra. C'est une parabole. C'est pas une histoire pour les enfants. C'est une parabole avec une conclusion terrible également. Une parabole qu'il faut toujours prier. Je vais faire une étude. Je ne sais pas comment je vais la faire avec tous les il faut, tous les impératifs dans la Bible. Le Seigneur le dit souvent. Il faut, il faut. Ça, c'est des choses non négociables. Et aujourd'hui, nous sommes dans un... où tout le monde râle. Ce matin, j'écoutais, j'ai pris 5 minutes. En principe, je ne regarde jamais, jamais la télé le matin. Mais c'est ce matin ou hier matin, j'ai pris 5 minutes pour voir les infos. Et il y avait un reportage d'un journaliste, doué, qui a, en 5 minutes, a fait un reportage sur le fait que tout le monde râle. Que tout le monde râle. Et même lui, à la fin, il disait, moi, je râle. Mais c'était fait avec humour, mais c'était bien dit. Et nous sommes dans un pays où tout le monde râle. Tout le monde râle. Tout le monde. Et que tout le monde, tous les pécheurs râlent, c'est normal, ils sont dans les ténèbres. Mais les chrétiens, ils devraient parler. Oui ou non? Les chrétiens devraient être remplis de reconnaissance envers le Seigneur. Jésus leur montra une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Vous connaissez la parabole du juge inique et de la veuve. Et à la fin, le Seigneur dit au verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ?» Alors les élus dans la Bible, ce n'est pas les chrétiens de nom. Hein. Les élus, ce sont ceux qui ont répondu à l'appel. Parce que des chrétiens, ça ne veut rien dire. Catholiques, protestants, évangéliques, ça ne veut rien dire. Par contre, les élus, ce sont des gens qui ont répondu à l'appel. Vous connaissez le texte, il y a beaucoup d'appelés. mais peu d'élus. Il y a beaucoup de chrétiens. Les élus, ce sont ceux qui répondent à la vocation. C'est une loi, ça. C'est un élu dans la Bible, c'est quelqu'un qui répond à sa vocation. Il est appelé, il obéit, il devient un élu. Il dit pas les croyants, les élus. Ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Donc Dieu est en train de faire une promesse, disant, moi, je vous dis que les chrétiens qui persévéreront dans la prière, Dieu leur fera justice, que ce soit aussi bas ou dans le ciel, c'est pas important. Dieu fera justice. Peut-être que vous avez subi des injustices, ça n'a jamais été réglé. Est-ce que c'est possible? Et vous avez dit, Seigneur, je remets ça entre tes mains. Vous avez bien fait, ça sera réglé. Peut-être que vous trouvez que ça traîne, mais c'est pas important. Ce qui est important, Dieu fera justice. C'est écrit. Et il ajoute quelque chose qui devrait tout nous faire réfléchir, c'est le but. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais, aïe, c'est mais, c'est conjonction, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus est en train de dire, moi je vous promets que je ferai ce que je dois faire, mais trouverai-je la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, justement, parce que peut-être plusieurs trouvent que Dieu ne fait pas justice. Si Dieu était juste, il n'aurait pas permis cela. Si Dieu était juste, eh bien, quand même, j'aurais eu le boulot que je méritais à la place de l'autre, là, qui a cédé aux avances du chef. Et je ne sais pas juste. Et je pourrais citer des dizaines d'exemples. Les gens, commençant à douter de la justice de Dieu, finissent par perdre la foi. C'est comme ça. La justice, mais on peut mettre n'importe quelle vertu de Dieu, enfin, quel caractère de Dieu. Quelqu'un qui va commencer à douter de l'amour de Dieu, non, c'est pas vrai, Dieu ne m'aime pas, s'il m'aimait, je n'en serais pas là. Ou alors si Dieu était vraiment droit, ça ne se passerait pas comme ça. Et quand on commence à remettre en question la probité de Dieu, on en revient non pas à dire « Dieu a dit », mais à dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et ce que Jésus est en train de dire à ces pharisiens, qui étaient tout le temps contrariés parce que Jésus les troublait, par ses paroles, Jésus les troublait parce que, et bien sûr, ça changeait de la religion morte. Jésus, lui, il arrivait avec la grâce, avec le pardon, avec la sévérité, bien entendu, avec la justice. Et ça contrariait les pharisiens, bien sûr, qui ne voyaient pas d'un bon œil ce que le Seigneur Jésus faisait. Et Jésus va leur dire, mais les fils du royaume, ils devaient pas rire. Je me doute que ça devait grincer, déjà. Quand ils se sont entendus dire, les fils du royaume, mais il va être furieux. Un officier de l'armée, vous rendez compte qu'en plus, prélevait des impôts sur les juifs pour payer l'armée de Rome, qui s'entend dire, même en Israël, il devait être, j'aurais aimé voir leur tête. Mais voyez, Jésus dit, oui, les fils du royaume. Nous, on dit, voilà, ils rentreront dans le ciel, les pentecôtistes. Hein? Ce sont les élus qui rentreront dans le ciel. Tous les hommes qui auront entendu l'appel de la croix, tous les hommes qui auront entendu un jour que Jésus, sur le bois de la croix, il est mort pour eux, tous les hommes qui comprendront que la mort de Jésus-Christ, c'est la venue de Dieu sur la terre, qui a tout accepté pour que les hommes puissent obtenir le pardon et la rédemption, tous ceux qui s'entendront par une prédication, par la lecture, d'une façon ou d'une autre, la prédication de la croix, tous ceux qui diront « Je suis un pécheur, je suis perdu, si je meurs, je vais en enfer, Seigneur, couvre-moi de ton sang. » Voilà, les élus, ce sont ceux qui répondent à l'appel. Il y a des gens qui prennent le baptême, je le vois, mais j'en suis désolé, catastrophé de voir combien de gens prennent le baptême, ils ne sont jamais passés par la conversion. On le voit, il n'y a pas de fruits. Et ça nous désole à nous, pasteurs. Si on avait davantage d'onction, c'est clair que ça changerait. Mais en fait, c'est quand même la vérité. Même parmi nous, il y a des gens qui sont baptisés, qui restent dans le péché, qui restent dans la désobéissance, qui restent dans la fornication ou dans l'alcoolisme, parce qu'ils manquent une dimension. Ils n'ont pas cédé. Moi, je crois qu'à la croix, on change. Vous croyez pas qu'on change à la croix? Regardez le brigand sur la croix, le criminel. Ne crains-tu pas Dieu? Cet homme qui injuriait Jésus quelques heures plus tôt, tout d'un coup, il a la crainte de Dieu. Quand vous passez vraiment par la croix, vous avez le respect des choses spirituelles. Ça, c'est évident. Quand on n'a pas le respect des choses spirituelles, moi, l'Église, je m'en fiche pour utiliser des mots qu'on peut utiliser. Quand on voit les chrétiens, comment ils parlent du corps de Christ, de l'Église, ils ne sont pas passés par la conversion, ou alors ils ont abandonné la foi. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et la question que nous devons nous poser ce soir, mais où j'en suis au niveau de la foi? C'est une évidence. Jésus n'a-t-il pas dit par l'apôtre, examinez-vous, vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le Seigneur dit, ce soir, je dois dire, mais est-ce que je mets ma foi en Dieu? Oui, je viens au culte. Oui, je vais à Bethel, ou je vais à Gilgal, des lieux de lieux de culte. Oui, je suis dans un lieu de culte ce soir. Mais où j'en suis vraiment de cette foi que je faisais valoir les premiers jours de ma conversion, cette foi que je réalisais, vous vous rappelez quand vous vous êtes converti, on a réalisé qu'on avait la foi, cette mesure de foi que Dieu avait mis en nous, on s'est dit mais c'est vrai, je peux prier, et on a expérimenté la puissance de Dieu. Et nous devons être honnêtes et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'expérimente aujourd'hui? Quelle est ma foi? Est-ce que ma foi, elle est vivante? Est-ce que quand je prie avec foi? Ou est-ce que je récite des prières? Parce qu'il faut prier, parce qu'il faut aller à l'église, parce qu'il faut que l'église soit une maison de prière, alors je prie. Je prie, mais je prie machinalement, mécaniquement, habituellement. C'est un vrai train-train, mais ce n'est pas vivant. Et ce soir, mes frères, je voudrais que nous examinions nous-mêmes. Parce que de toute façon, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la foi, c'est quoi? C'est croire. Vraiment, je crois. Je vous ai raconté cette expérience que j'ai faite il y a, ça remonte à 14 ans, c'était dans la période la plus pénible que j'ai pu traverser. Où je lisais ce texte, ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol comme les aigles. Je lisais ça. Ils courent et ne se lassent point. Ils font une marche et ne se lassent point. Ils courent et ne se fatiguent point. Moi je disais, les aigles, je vous l'ai déjà dit, mais je me comparais plus à un dindon dans un grillage qu'à un aigle. Je sais pas, et moi j'étais là, j'ai eu le combat, la foi. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais tu vois, mais je prie, et je ne ressemble pas à un aigle. Et le Seigneur m'a parlé, tu pries, mais tu ne te confies pas en Dieu. On peut prier des heures et ne pas se confier en Dieu. Et le Seigneur n'a pas dit ceux qui prient prennent leur vol comme des aigles. Il a dit ceux qui se confient en Dieu. Quelqu'un qui se confie en Dieu, il met sa foi en Dieu. Il expérimente une vérité du Nouveau Testament, le bon combat de la foi. Et si le combat que je mène, je peux l'interpréter comme un mauvais combat, non, c'est le combat de l'incrédulité. C'est un mauvais combat. Je crois que si Dieu a dit à Timothée par l'apôtre Paul, combat le bon combat, c'est un bon combat. Mais c'est un bon combat si c'est un combat vécu par la foi. Parce que quand je me confie en Dieu, je crois que Dieu s'en occupe. Et la foi, c'est dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Tu t'occupes de mon mari. Il est inconverti. Seigneur, je suis convaincu que tu t'occupes de lui. Et vous avez la paix. C'est peut-être le plus gros pécheur de Toulouse. Est-ce que Dieu peut arrêter le plus gros pécheur de Toulouse sur son chemin et le faire tomber de sa Jaguar, puisque personne n'est à cheval maintenant comme solde tard, ou de sa Mercedes, ou de sa deux chevaux, qu'importe. Est-ce que Dieu peut arrêter un blasphémateur? Est-ce qu'il y a un pécheur sur terre que Dieu regarde et que Dieu dit, oh celui-là, j'ai aucun moyen de l'atteindre? Est-ce que Dieu parcourt Toulouse et dit, ah celui-là, ah le mari, non, celui-là il est trop dur, je ne peux pas le toucher. Dieu peut tout. Et la foi, c'est je le crois. Dieu peut sauver tous mes enfants. Dieu peut faire ce qu'il a dit dans sa parole. Il veille sur sa parole. La foi, c'est je le crois. Mes frères et sœurs, il sera terrible ce jour où Jésus va enlever l'Église. C'est l'Église de la fin des temps qui devrait être le plus préoccupée par l'enlèvement de l'Église. Les chrétiens de l'Église primitive étaient obsédés, le mot est juste, ils étaient accaparés, ils attendaient ça. Les chrétiens de l'Église primitive n'attendaient que le retour de Jésus. Et nous là, 2000 ans après, est-ce que nous serions moins intéressés que les chrétiens de l'Église primitive par le retour de Jésus? Car quand même, pour être prêt, il faut marcher par la foi. Ceux qui ne marchent pas par la foi, la Bible dit qu'ils se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent et qui perdent leur âme, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et en plus, nous sommes gagnants, parce que le croyant qui vit par la foi, le croyant qui combat le bon combat de la foi, ben il est dans cette assurance. Il a de l'assurance. Quand est-ce qu'on n'a pas d'assurance? Quand est-ce qu'on est là et qu'on a peur, qu'on est lié par la timidité, qu'on est lié par la crainte, qu'on est lié par toute espèce de blocage et dont le diable se fait des gorges choses de tout ça? lorsqu'il voit les chrétiens qui sont abattus, lorsqu'il voit les chrétiens qui sont timides, est-ce que les chrétiens devraient être timides? Dites-moi. La Bible dit, mais ayez du zèle, et non de la paresse. Et tout ça, ça contribue à nous faire manifester la foi. La foi, elle doit être vivante. Ce centenier, je ne sais pas s'il fréquentait les synagogues, si c'est le même de l'évangile de Luc, oui, puisqu'il était dit qu'il y en avait un qui avait construit une synagogue. Donc c'est un homme qui était sérieux avec Dieu. Mais c'est un homme qui était plein de foi. Ah, c'est sûr que là, l'habit ne faisait pas le moine. Quand il se promenait avec son armure et sa cape rouge de centenier, il y en a beaucoup qui devaient dire, mais celui-là, il ferait mieux de retourner chez lui. C'était un enfant de Dieu. Un militaire sauvé. Ah, moi, je croyais que les militaires, ils iraient tous en enfer. Moi, je vous dis que dans le ciel, on va avoir des surprises. On va avoir des surprises. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il y aura dans le ciel, il y aura des légionnaires. Vous ne le croyez pas? Voilà. Je ne sais pas s'ils auront le béret vert toujours, mais je peux vous dire qu'il y aura des légionnaires dans le ciel. Ouais. Dans le ciel, il y aura les hommes et les femmes qui auront été sérieux avec Dieu sur la terre. Et qui, lorsqu'ils entendront un message comme celui-là, diront « Ma foi, il faut que je me remette à lire la Bible. » Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Augmente ma foi. » Bien sûr, ils reprennent une parole des apôtres qui disaient à Jésus « Augmente la foi, augmente ma foi. » Mais si vous ne lisez pas la Bible, la foi n'augmentera pas. Il faut être sérieux. C'est comme un gars qui fait du bodybuilding, qui dit « Je voudrais avoir davantage de muscles, je voudrais avoir davantage de muscles. » Il se regarde dans la glace. Et bien sûr qu'il voudrait séduire toutes les jeunes filles du quartier. Et mais s'il ne fait pas de la muscu, il n'aura pas des muscles. C'est évident. Il y a des lois. Il y a des lois comme ça. Et je crois que nous sommes dans un monde où on a comparé la foi avec de l'artifice. C'est comme quelqu'un qui part. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui sort dans la rue, que en plein hiver, là, qui dit « Moi, je ne mets pas mon manteau, j'ai la foi, je crois que Dieu peut me garder du froid, moi j'ai la foi. » Oh, quelle foi. Quelle ânerie. Parce que la Bible dit que celui qui sort par un jour de froid sans son manteau, c'est un insensé. C'est pas écrit? Eh oui, vous le savez maintenant. Mais c'est écrit. Et voyez, là, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que la foi, c'est ça. La foi, c'est, moi je crois, mais c'est ridicule. Mes frères, la foi, Dieu dit qu'il veut s'occuper de ses enfants. Quand Dieu dit « ne crains rien », la foi c'est dire « je te fais confiance, je ne m'appuie pas sur moi, je m'appuie sur toi Seigneur ». Oui, est-ce qu'il trouvera la foi? Ce soir, est-ce que Dieu trouve la foi dans ce lieu? Quelqu'un est-il malade? Dieu peut-il le guérir ce soir? Quelqu'un est-il lié par la crainte, par la timidité? Ça peut être maladif, j'en sais rien. Mais moi je vous le dis, que mes frères et sœurs, Dieu dans cette ville, il recherche des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Un chrétien ne peut pas être un lâche. Un chrétien, il doit avoir du courage. Parce qu'il y a un combat, il faut témoigner. C'est pas facile d'être chrétien. Des fois, on dit, oh, les chrétiens, c'est des lâches. Mais c'est l'inverse. Un chrétien, quelqu'un qui n'a pas de courage, ne peut pas être chrétien. Mais est-ce que Dieu peut nous donner du courage? Et voilà. Est-ce que Dieu peut nous délivrer ce soir? Parce que demain, Dieu va peut-être mettre sur votre chemin quelqu'un qui va au suicide. Est-ce que Dieu peut mettre un de vos voisins qui pense au suicide? Et je crois que des fois, il faut oser. Je pense à Mme Coupeau, lorsqu'elle a parlé à cette femme dans la rue, qui est morte un an après. Je me souviens aussi de cette femme, un jour, et qui s'est convertie entre-temps, de cette femme qui passait dans la rue, là. C'était à 3 heures, et elle passait dans la rue, et je lui ai dit, bonjour madame. Elle était. Elle m'a dit, je cherche une église, avant de me suicider. Ah, j'ai rentré. Elle est rentrée. On a parlé avec elle, on a prié avec elle. À la fin, elle m'a dit, c'est passé quelque chose. Et je ne l'ai plus revue. Et un mois après, elle m'a dit, vous savez, je suis retourné chez ma mère à Paris. On s'est réconciliés. J'ai plus envie de mourir. J'ai envie de vivre. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'il faut du courage pour témoigner à quelqu'un. Il faut des fois, on le sent des fois. Mes frères et sœurs, la foi, elle fait mouvoir le bras de Dieu. Tous les hommes de Dieu l'ont dit. Si vous avez lu des livres sur la foi, presque tous les auteurs ont cité cette parole de ce grand revivaliste. La foi fait mouvoir le bras de Dieu. Et Dieu veut que ses enfants, ils fassent valoir la foi. Nous voulons une église bouillante, nous avons des projets dans cette église, nous en avons déjà. Est-ce parce que nous avons déjà des projets qui tiennent debout, comme la formation des stagiaires, d'ouvrir une annexe, je ne sais pas encore, de soutenir le Niger, d'aider des églises, parce que Dieu nous a donné des possibilités, nous faisons des choses. Alors est-ce que nous allons vivre en roue libre en disant, voilà, c'est vrai, ça baigne, merci Seigneur, mais l'église de la Odyssée était dans ce cas de figure. Merci Seigneur pour tout ce qu'on fait. Il faut faire attention de ne pas être méprisé, parce que ça représente un gros investissement, et c'est tout à votre honneur. Mais nous pouvons faire ça maintenant sans la foi. Est-ce que nous voulons avoir une foi vivante? Vous n'avez pas envie que l'Église fasse de nouvelles expériences? Vous n'avez pas envie que tous nos ados se convertissent? Il y a combien d'ados, Isabelle, vous voyez ma femme? Il y a combien d'ados dans l'Église? Il y en a combien? Une vingtaine? Est-ce qu'ils peuvent se convertir, ces 20 ados? Des jeunes, il y en a combien parmi nos enfants qui sont par contre convertis? Est-ce qu'on peut demain matin dire, Seigneur, sauve mes enfants? Quand vous dites ça, mais Dieu est avec vous. Et, Seigneur, est-ce que tu veux sauver mes enfants? Est-ce que Dieu veut les sauver, les enfants? Quand vous dites à Dieu, sauve mes enfants, mais je pense qu'il est d'accord. Puisque Dieu veut sauver tous les hommes. Et la foi, c'est dire, mais tu les sauves. Quand vous dites, sauve mon fils, Dieu, il est derrière. Il n'est pas contre vous. Il est avec vous. Une foi vivante, ceux qui n'ont pas la foi connaîtront les pleurs et les grincements dedans. Je ne sais pas si vous avez envie de connaître ça, mais moi je n'ai pas envie. Et si nous sommes là ce soir, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui boue, ou quelque chose qui doit changer, quelque chose qui doit être modifié, quelque chose qui doit être de renaître. Vous savez quand la Bible dit « repentez-vous ». Moi je termine avec cette pensée dans Matthieu 18, quand Dieu a dit un jour aux apôtres, si vous ne, qui n'étaient pas contents parce qu'il y avait des enfants qui perturbaient la réunion. Et Jésus en a pris sur les bras, et les apôtres ils étaient contrariés, ça ne se fait pas ça. Et Jésus va leur dire, mais ne les empêchez pas. Et si vous ne vous convertissez, ils étaient convertis. Et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ils étaient convertis, bien sûr qu'ils étaient convertis. Mais dans la vie, une fois qu'on est converti, il y a encore des choses qu'il faut changer. C'est pas vrai? Ou revoir, ou réapprendre, ou corriger, afin que des temps de rafraîchissement viennent, afin que la pluie revienne. Quand Dieu avait refusé la pluie, ah, quand je vous ai refusé la pluie, vous croyez que c'était pour les ennuyer? C'était pour qu'ils reviennent à Dieu, pour que Dieu tout à nouveau les rafraîchisse. Ce soir, ce n'est pas une prédication pour ennuyer qui que ce soit. C'est pour que tous nous puissions dire, mais ma foi, elle est en train de s'éteindre, elle est en train de mourir, elle est en train de se mélanger avec de la religiosité. Ma foi, j'ai beau parler à des gens, mais qu'est-ce que c'est ma prière? C'est la prière de la foi qui sauve le malade. C'est la prière de la foi qui délivre les captifs. C'est la prière de la foi qui nous amène tout d'un coup à être délivrés de la timidité. Est-ce que Dieu peut délivrer quelqu'un? Dans l'église, mes frères, Dieu vous attend, mes sœurs. Dieu vous attend à la maison de prière pour qu'une église soit bouillante et vivante. Alléluia! C'est ça que Dieu veut. Oui, le contexte de cette... Il y en a sept. S'il faut, on fera sept prédications sur les sept pleurs et les grincements dedans. Mais mes frères et sœurs, c'est quelque chose de sérieux. Ces fils du royaume, ce centenier, il est dans le ciel s'il a persévéré. Et il mangera avec Abraham, Isaac et Jacob dans le ciel. Et tous les autres, il va y avoir du monde. Est-ce que vous voulez être aux noces de l'agneau? Est-ce que vous voulez être au festin des noces de l'agneau? Vous savez, moi je vous dis, c'est d'une logique incontournable. Il n'y en a pas pour longtemps. Ou est-ce que vous voulez être sur la terre pour la colère de Dieu, ou dans les lieux de tourment en attendant le jugement? C'est ça, c'est pas du chantage. Un pasteur qui ferait du chantage serait dans un état de folie totale. Ce n'est pas du chantage, c'est la vérité. Parce que, ou on connaîtra les noces de l'agneau, ou on attendra le jugement. Et avoir une foi superficielle nous met dans un véritable danger. Mes frères et sœurs, fermons les yeux.